Tämä oli kuin kyllä. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بدری صاحب کے ذکر میں جن صاحب کی آج میں ذکر کروں گا پہلے ان کا نام
Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Utba bin Mas'ud Huzaili. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. Il appartenait à la tribu Banu Makhzoum. Et il était l'allié de la tribu Banu Zuhra. Le père d'Utba bin Mas'ud se nommait Mas'ud bin Ghafir et sa mère se nommait Umm Abd bin Abdiwud. Abdullah bin Mas'ud était son frère. Utba bin Mas'ud était un des premiers musulmans de la Mecque et il avait aussi participé à la deuxième immigration en Abyssinie. Utba bin Mas'ud faisait partie des Ashab Soufa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a expliqué ce qu'est la Soufa en citant divers recueils d'histoire. Il relate, il y avait une terrasse couverte dans un coin de la mosquée qu'on appelait Soufa. Ce lieu était pour les émigrants pauvres qui étaient sans logement. Ils habitaient dans ce lieu et ils étaient nommés les Ashab Soufa. Leur tâche était de vivre en compagnie du saint prophète Mohammed, matin et soir, de se consacrer à l'adoration de Dieu et de réciter le Saint-Coran. Ils ne disposaient pas de moyens de subsistance permanents. Le saint prophète Mohammed en personne s'occupait d'eux. Lorsque le saint prophète Mohammed recevait quelque mets en cadeau ou lorsque quelque chose était préparé à la maison, eh bien le saint prophète leur accordait leur part. Des fois, le saint prophète Mohammed ne mangeait rien pour offrir son repas aux Ashab Soufa. Les Ansar aussi, dans la mesure du possible, tentaient de nourrir les Ashab Soufa. Ils apportaient des grappes de dattes qu'ils pendaient dans la mosquée. Or, en dépit de cela, les Ashab Soufa vivaient difficilement. Souvent, ils approchaient la famine. Et cette situation a duré plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver de l'emploi suite à l'augmentation de la population de Médine. Et certains d'autres recevaient de l'aide de la Baytul Mal. Voici d'autres détails concernant les Ashab al-Sufa, d'autres détails tirés d'autres recueils. Ses compagnons passaient la journée en compagnie du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, et ils écoutaient les hadiths. Ils passaient la nuit sur une terrasse qu'on appelle Soufa en langue arabe. C'est pour cette raison qu'on nommait ses compagnons les Ashab al-Sufa. Certains d'entre eux ne disposaient pas au même moment d'un manteau pour couvrir le haut du corps et d'un pagne pour couvrir le bas. Ils portaient une couverture du cou et cette couverture pendait jusqu'à leurs cuisses. Ainsi donc, ces vêtements ne les recouvraient pas entièrement. Abu Huraira faisait partie des Ashab al-Sufa. Il relate, « J'ai vu 70 personnes des Ashab al-Sufa qui portaient des vêtements si courts que ces vêtements n'atteignaient même pas leurs cuisses. Ces vêtements recouvraient à peine leur corps jusqu'au-dessus de leurs genoux. » Il ajoute, « Pour leurs moyens de subsistance, certains d'entre eux apportaient des fagots de la campagne pour les vendre et pour nourrir ainsi leurs frères. » La majorité des Ansars leur apportaient des branches de dattes qu'ils pendaient du toit de la mosquée. Les étrangers qui les voyaient croyaient que ces Ashab al-Sufa étaient frappés de folie, qu'ils étaient des sots et qu'ils s'asseyaient là sans rien faire. Ou ils croyaient peut-être aussi qu'ils étaient des personnes qui avaient une grande affection pour le saint prophète Mohammed et qu'ils ne souhaitaient pas le quitter. En tout cas, lorsque le saint prophète Mohammed recevait de l'aumône, eh bien, il leur envoyait cela. Et lorsqu'il était convié pour un repas, il invitait les Ashab al-Sufa et il s'asseyait avec eux pour manger. Souvent, durant la nuit, le saint prophète Mohammed partageait les Ashab al-Sufa entre les Ansar et les Muhajirin. C'est-à-dire, chacun d'entre eux, selon leurs moyens, prenait un ou deux Ashab al-Sufa avec lui pour leur offrir le repas du soir. C'est-à-dire, le saint prophète confiait certains des Ashab al-Sufa à certains Ansar et à certains Muhajirin pour qu'ils puissent les nourrir. Sa'd bin Obada était un compagnon très généreux et très riche. Parfois, il invitait chez lui 80 invités pour un repas. Il les invitait pour le repas du soir. Ainsi donc, il était très riche. Selon les récits, le nombre des Ashab al-Sufa a fluctué avec le temps. Au minimum, il y avait 12 et au maximum, il y avait environ 300, voire 600 compagnons qui logeaient dans le Soufa. Le saint prophète Mohammed avait une grande affection pour ses compagnons d'As-Soufa. Le saint prophète Mohammed s'asseyait avec eux dans la mosquée, il mangeait avec eux et il encourageait les gens à les honorer. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed faisait comprendre aux autres que les Ashab al-Soufa n'étaient pas des gens oisifs qui ne méritaient pas d'être honorés. Le saint prophète disait que ces Ashab al-Sufa restaient là pour écouter ses propos, et c'est pour cette raison qu'on doit les honorer. Une fois, une délégation des Ashab al-Sufa s'est plainte au saint prophète Mohammed, et ce soit lui que les dattes avaient irrité leur estomac. C'est-à-dire qu'on leur donnait que des dattes à manger et rien d'autre. Le saint prophète, les a écoutés. Et pour les consoler, le saint prophète, a prononcé un discours en disant, « Vous dites que les dattes vous ont irrité l'estomac. Ne savez-vous pas que les dattes sont la nourriture des gens de Médine ? Les gens nous aident avec les dattes et nous vous aidons grâce à ces dattes. » Ensuite, le saint prophète a ajouté, « Par Allah, la fumée n'est pas sortie de l'âtre de la maison de l'envoyé de Dieu depuis un ou deux mois. » C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ainsi que les membres de sa famille, se sont contentés de dattes et de l'eau pendant plusieurs semaines. En tout cas, ces Ashab Soufa étaient des gens d'une grande fidélité. Certes, ils s'étaient plaints du fait qu'ils devaient se contenter de dattes, des dattes qui avaient irrité leur estomac. Cependant, ils n'ont pas abandonné ce lieu. En toute sincérité, ils sont restés là-bas et ils devaient se contenter de rien ou ils devaient se contenter de dattes ou de ce qu'on leur offrait. Ensuite, on dit que ses compagnons veillaient la nuit en prière généralement. Ils récitaient le Coran la nuit. Ils disposaient d'un mualim qui, la nuit, leur récitait le Coran. Ils récitaient le Coran à ceux qui ne pouvaient le faire ou ceux qui souhaitaient mémoriser le Saint-Coran. Le mualim leur récitait aussi le Coran durant la nuit. Et c'est pour cette raison qu'on nommait la majorité des Ashab Soufa des Qari et on les envoyait pour diffuser le message de l'islam. Lorsqu'ils ont été formés, on les a nommés Qari et on les envoyait pour former des autres. Par la suite, certains de ses compagnons ont occupé des postes importants. Certains de ces Ashab Soufa ont occupé des postes importants. Ils ne s'étaient pas contentés de rester là. Ainsi, au cours du califat d'Omar, Abu Huraira a été nommé gouverneur du Bahreïn. Ensuite, il a été aussi nommé gouverneur de Médine à l'époque de Mouawiya. Saad bin Abi Waqqas a été nommé gouverneur de Basra. C'était lui d'ailleurs qui avait fondé la ville de Koufa. Salman le Persan a été choisi gouverneur de Madaïn. Ammar bin Yasir a été nommé gouverneur de Koufa. Ils faisaient tous partie des Ashab Soufa. Obada bin al-Jarrah a été nommé gouverneur de la Palestine. Anas bin Malik a été nommé gouverneur de Médine à l'époque d'Omar bin Abdelaziz. Un général qui a remporté de nombreuses victoires pour l'islam était issu des Ashab Soufa. Zayd bin Thabit était non seulement un général, mais il était aussi qadi en chef lors du califat d'Omar. Abu Saïd Khoudri relate ceci. Je faisais partie des Ashab Soufa, de cette communauté de compagnons qui étaient pauvres, des compagnons dont la moitié du corps était presque nu et qui arrivaient à peine à couvrir leur partie privée. Ils étaient si pauvres qu'ils arrivaient à peine à couvrir leur partie privée de leur corps. Un qari parmi nous récitait le Coran quand le saint prophète, paix soit sur lui, est passé par là. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, s'est mis debout, le qari s'est tu. Le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a présenté ses salutations et il a demandé, « Que faisiez-vous là ?» Nous avons répondu que le qari nous récitait le Coran. Et nous étions en train d'écouter le livre d'Allah. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré, « Toutes les louanges appartiennent à Allah, qui a accordé à ma Oumma des gens en compagnie de qui on m'a enjoint d'être patient. » C'est-à-dire que le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, devait être patient à l'instar de ses compagnons. Le rapporteur ajoute, « Le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, s'est assis entre nous et afin de se compter parmi nous, de sa main, il a indiqué de faire un cercle. Et c'est ainsi que tout le monde faisait face au Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le rapporteur ajoute qu'il pense que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait reconnu personne, hormis lui, étant donné qu'ils étaient en très grand nombre. Le rapporteur déclare que le Saint-Prophète l'avait reconnu lui seul. Le saint prophète a déclaré aux émigrants indigents, « Soyez bienheureux. Le jour de la résurrection, vous entrerez au paradis une demi-journée avant les riches avec la lumière parfaite. » Et cette demi-journée équivaut à 500 ans. Le Messie premier al-Islam a aussi reçu une révélation dans laquelle les Ashab al-Suffa ont été mentionnés. C'était une révélation reçue en arabe. Il est dit « Ashab al-Suffa wa ma adraka ma Ashab al-Suffa tara a'yunahum tafidu min ad-dama yusalluna alayk rabbana inna sami'na munadi yayunadi lil-iman wa da'yan ila Allahi wa sirajam munira » La traduction de cette révélation est comme suit. Les gens d'As-Suffa, et qui te fera savoir qui sont les gens d'As-Suffa? Tu verras des larmes couler de leurs yeux. Ils enverront des salutations sur toi et ils diront, ô notre Seigneur, nous avons entendu l'appel d'un héros qui nous a invités vers la foi. Cela concerne certains compagnons du Messie premier al-Islam qui allaient se joindre à lui. Ensuite, le Messie premier al-Islam a déclaré « Les Ashab al-Suffa de l'époque du Saint-Prophète Mohammed étaient des gens d'un éminent statut. Ils étaient très fermes dans leur foi. Et ils ont été des exemples de sincérité et de fidélité. Allah m'a informé qu'il m'accordera certaines personnes de cette catégorie. » Selon le Sahih al-Bukhari, Utba bin Mas'ud faisait partie des Ashab al-Suffa. On dit aussi qu'il avait participé à la bataille de Badr. Mais selon d'autres biographies des compagnons, à l'instar d'Asadul Rabba fi Ma'rifa al-Sahaba, Al-Asaba fi Tamiz al-Sahaba, et Al-Istiyab fi Ma'rifa al-Ashab, et selon Tabakat al-Kubra, Utba bin Mas'ud aurait participé aux batailles d'Uhud et aux autres Ghazwat, mais il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Mais Al-Bukhari compte Utba bin Mas'ud parmi les compagnons de Badr. Utba bin Mas'ud est décédé en l'an 23 de l'Hégire à l'époque du califat d'Umar bin Khattab. Le calife Omar avait dirigé sa prière funéraire. Selon Qasim bin Abdurrahman, le calife Omar avait entendu Oumé Abd, la mère d'Utba bin Mas'ud, afin qu'elle puisse aussi participer à la prière funéraire. Selon l'imam Zuhri, Utba bin Mas'ud avait rejoint les rangs des compagnons avant son frère nommé Abdullah bin Mas'ud. Et Utba bin Mas'ud avait accompli l'émigration avant lui. Abdullah bin Utba relate ceci. Quand Utba bin Mas'ud est décédé, son frère Abdullah avait des larmes aux yeux. Certaines personnes lui ont demandé s'il était en train de pleurer. Il a répondu, « Il était mon frère et il était mon compagnon auprès du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hormis Omar bin Khattab, c'était la personne que j'aimais le plus. » Selon un autre récit, lorsqu'Abdullah bin Mas'ud a entendu la nouvelle du décès de son frère Utba bin Mas'ud, eh bien, il avait des larmes aux yeux et il a déclaré « Certainement, c'est là une grâce qu'Allah a fait naître. Le fils d'Adam ne peut certainement pas s'échapper de la mort et cette mort est une source de grâce pour les personnes pieuses. » Selon un récit, Omar bin Khattab avait nommé Utba bin Mas'ud émir de la ville de Médine. Le prochain compagnon se nomme Obada bin As-Samit. Il était un Ansari. Son père se nommait Samit bin Qais et sa mère se nommait Quratul Ayn bint Ubada. Il avait participé à la première et à la deuxième Bayra d'Aqaba. Il était le chef de la famille Banu Auf bin Khazraj de la tribu Al-Khazraj. Ses chefs étaient nommés Kawakil pour la raison suivante. Lorsqu'une personne demandait la protection d'un chef de Médine, eh bien, on lui disait qu'il pouvait escalader la montagne autant qu'il le voudra et qu'il sera maintenant en paix et il sera sous la protection de ce chef. C'est-à-dire qu'il pouvait partir librement et sereinement et il ne doit ressentir aucune crainte, car il était sous la protection d'un chef. Ces chefs qui accordaient ces protections étaient nommés Khawarila. Selon Ibn Hisham, lorsqu'un chef accordait sa protection à une personne, il lui offrait une flèche en disant qu'il pouvait partir là où il souhaitait. Thalaba bin Dard, le grand-père de Nu'bad, était un Qawqal. Ghanam bin Auf, le chef de la tribu Khazraj, était aussi un Qawqal, à l'instar de Sa'd bin Ubada. Les Banu Salim, les Banu Ghanam, les Banu Auf et les Khazraj étaient aussi nommés Qawqala. Ubada bin Samit était le chef des Banu Auf. Un des chefs de Bada se nommait Walid et sa mère se nommait Jamila bint Abu Sa'sa. Son deuxième fils se nommait Muhammad et sa mère se nommait Umm Haram bint Milhan. Aus bin Samit était le frère de Bada bin Samit. Aus était aussi un compagnon de Badr. Le saint prophète Mohammed bin Sassad, lui, avait établi un lien de fraternité entre Abu Marsad Ghanoui et Ubada bin Samit. Quand Abu Marsad s'est établi à Médine, Ubada bin Samit avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles menées par le saint prophète Mohammed bin Sassad, lui. Ubada bin Samit est décédé en l'an 34 de l'Hégire à Ramla, en Palestine. Selon d'autres rapporteurs, il serait décédé à Jérusalem et il y a été enterré. Sa tombe s'y trouverait jusqu'aujourd'hui. Selon un autre récit, Ubada bin Samit est décédé à Qabras lorsque le calife Omar l'y avait nommé gouverneur. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Il était grand de taille et il était très beau. Selon d'autres récits, il serait décédé en l'an 45 de l'Hégire à l'époque de l'émir Muawiyah. Mais le premier récit datant sa mort de l'an 34 de l'Hégire en Palestine est plus authentique que ce récit disant qu'il est décédé en l'an 45 de l'Hégire. Ubada bin Samit a relaté 181 récits. D'éminents compagnons et des tabéines ont relaté ces nombreux hadiths. Parmi ces compagnons, on trouve Anas bin Malik, on trouve Jabir bin Abdullah, on trouve aussi Miqdad bin Mahdi Karb. Un rapporteur déclare qu'Ubada bin Samit avait participé à la bataille de Badr et qu'il était un des chefs durant la nuit d'Aqaba. Quand les compagnons se sont réunis autour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: promettez que vous n'associerez personne à Allah. Promettez que vous ne volerez pas et que vous ne commettrez pas l'adultère, que vous ne tuerez pas vos enfants. Promettez que vous n'allez pas calomnier autrui et que vous n'allez pas me désobéir en toute bonne chose que je vous demanderai. Donc, quiconque sera fidèle à cette promesse d'allégeance aura sa récompense auprès d'Allah. Mais quiconque n'accomplit pas pleinement sa promesse, il subit des pertes en ce monde et sera puni, eh bien, sa punition sera une expiation pour lui. Quiconque n'accomplit pas sa promesse de Bayra, son cas demeure avec Allah le Tout-Puissant. S'il le désire, il peut le punir. et si le désir, il peut le pardonner. Ainsi, nous avons prêté allégeance au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en promettant de respecter ses conditions. Ce hadith est tiré d'Al-Bukhari. Lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est arrivé à Médine, il a accompli la prière de Juma à Quba. Il est ensuite monté sur sa chamelle pour se rendre à Médine. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a relâché les rênes de sa chamelle et il ne lui a donné aucun ordre. La chamelle a regardé à droite et à gauche comme si elle choisissait sa direction pour partir. Des gens du quartier où le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait accompli la prière de Juma appartenait à la tribu Banu Salim. Utban bin Malik, Nawfal bin Abdullah bin Malik et Ubada bin Samit en faisaient partie. Ils ont dit au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ô envoyé d'Allah, logez dans notre quartier, logez chez nous car nous sommes nombreux ici et vous serez honorés et vous serez protégés ici. C'est-à-dire, nous allons vous honorer, nous allons vous protéger. D'ailleurs, nous sommes en majorité musulmans ici. Selon un autre récit, ils auraient aussi déclaré qu'ils sont riches. Et selon un autre récit, ils auraient aussi déclaré que nous sommes plus nombreux. Et nous avons aussi des armes. Nous avons des jardins et nous avons de quoi combler les besoins de la ville. C'est-à-dire qu'ils pourront assurer la sécurité et qu'ils ont aussi une bonne situation financière. Ensuite, ils ont dit, ô envoyé d'Allah, quand un arabe tout terrifié vient dans la région, eh bien, il vient chercher refuge auprès de nous. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les a écoutés. Ensuite, il a exprimé son appréciation à leur égard. Et il a déclaré, laissez la voix à la chamelle, car elle est en train de suivre l'ordre de Dieu. Et elle partira et elle s'arrêtera ou elle s'assoira là où Allah le voudra. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré, cette chamelle suit l'ordre de Dieu, laissez-la partir librement. En souriant, le saint prophète a déclaré, qu'Allah vous bénisse pour votre offre. Et la chamelle est partie. L'auteur de l'ouvrage Sair al-Sahaba déclare « La conquête de l'Égypte prenait du retard lors du califat d'Omar. Sur ce, Amr bin As a envoyé une missive au calife Omar, lui demandant des renforts, suite à quoi le calife Omar a envoyé 4000 soldats, dont 1000 étaient sous le commandement d'Ubada bin As-Samit. Omar a dit dans sa lettre, « Chaque officier de cette armée est égal à 1000 personnes. » Quand les renforts sont arrivés en Égypte, Amr bin As a réuni toute l'armée et il a prononcé un discours passionné. Il a ensuite demandé à Ubada bin Samit de lui confier sa lance. Et Amr bin As a ensuite enlevé son amama, qu'il a attaché à la lance pour en faire un drapeau, le drapeau du général qu'il a confié à Ubada bin Samit. Et par la grâce d'Allah, l'armée a conquis la ville lors du premier assaut. Abu Ubaida bin Jarrah est parti à Homs après la conquête de la Syrie. Et après le traité avec les habitants de la ville, il a nommé Ubada bin As-Samit le gouverneur de Homs et il est parti vers Houma. Ubada bin Samit est par la suite parti à Latakia, une ville côtière de la Syrie. Ses habitants ont combattu les musulmans. Il s'y trouvait là-bas une porte énorme que seule une grosse foule pouvait ouvrir. Ubada a déplacé l'armée loin de la ville et il a demandé à l'armée de creuser un long tranché assez profond pour cacher un cavalier et sa monture. Les musulmans ont creusé le tranché au prix de grands efforts. Quand le soleil s'est levé, ils ont fait semblant de partir dans la direction de Homs, et le soir, ils sont retournés dans leur camp et dans leur tranchée. Les habitants de Latakia, croyant qu'ils étaient partis, le matin, ils ont ouvert la porte de leur forteresse pour sortir avec leur bétail. C'est là que les musulmans sont apparus sur le champ. Les habitants ont été pris de peur et les musulmans ont pris l'assaut pour pénétrer dans la ville et remporter la victoire. Obada est entré dans la forteresse, il est monté sur le mur de la forteresse et il a lancé le takbir. Certains chrétiens de Latakia ont pris la fuite vers Yassid. Par la suite, ils ont demandé la protection afin de pouvoir retourner sur leur terre. Ils avaient pris la fuite, mais ils sont retournés en demandant la protection pour retourner sur leur terre. Et après paiement d'une taxe sur leur récolte, on leur a confié leur terre. Et on leur a retourné aussi leur lieu de culte afin qu'ils puissent rendre culte à Dieu selon leur pratique. Les musulmans ont construit une mosquée à Latakia suite à l'ordre d'Obada. Et par la suite, la mosquée a été agrandie. Obada et les musulmans sont arrivés sur la ville côtière nommée Balda et ils ont conquis cette ville. Cette ville se trouvait environ 10 km de la forteresse de Jabla. Obada et ses compagnons ont remporté de nombreuses victoires. Ils ont conquis la ville côtière d'Antartus, la ville de Latakia, la ville de Jabla et Balda. Le saint prophète Mohammed avait confié à Obada bin Samit la responsabilité de collecter certaines aumônes et il lui a prodigué le conseil suivant. Crains Allah de peur qu'au jour de la résurrection, tu ne portes un chameau en train de blatérer ou que tu portes une vache en train de meugler ou une chèvre en train de bêler. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être malhonnête, il ne devait pas dilapider les biens offerts en aumône. En effet, à l'époque, les gens offraient des chameaux, des vaches ou des chèvres en aumône. Et il leur conseillait de distribuer à bon escient et de protéger ces biens reçus comme zakat ou comme aumône. Sinon, il devra porter ses fardeaux le jour de la résurrection. Obada bin Samit déclare, « En entendant cela, j'ai dit, « Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Je ne pourrai même pas être responsable de deux personnes. Je ne pourrai même pas porter le fardeau d'une seule personne. Il vaudrait mieux ne pas me nommer responsable, » a dit Obada. À l'époque du saint prophète Mohammed, lui, cinq ansars avaient recueilli le texte du Saint-Coran. Il y avait Muaz bin Jabal, Obada bin Samit, Ubay bin Ka'b, Abu Ayyub Ansari et Abu Darda. Après la conquête de la Syrie, Yazid bin Sufyan a écrit au calife Omar en lui disant que les gens de la Syrie avaient besoin d'un enseignant qui puisse leur enseigner le Saint-Coran ainsi que la religion. Le calife Omar lui a envoyé Muaz, Obada et Abu Darda. Obada s'est établi en Palestine. Janada relate ceci, « J'ai rencontré Obada et j'ai constaté qu'il avait une grande connaissance de la religion d'Allah. » C'est-à-dire qu'il était un très grand érudit. Quand les musulmans ont conquis la Syrie, Omar y a envoyé Obada et ses compagnons, parmi lesquels il y avait Muaz bin Jabal et Abu Darda. Il les a envoyés là-bas afin qu'ils puissent enseigner le Saint-Coran et la religion aux gens. Obada a logé à Homs, Abu Darda est parti pour Damas et Muaz est parti en Palestine. Après quelque temps, Obada s'est rendu lui aussi en Palestine. En Palestine, l'amir Muawiyah s'est opposé à Obada sur une question religieuse. C'était sur un point qui déplaisait à Obada. c'est-à-dire qu'il a eu un différend sur une question d'ordre religieux. L'émir Muawiyah a parlé durement à Obadah qui a déclaré qu'il ne va pas rester sur cette terre en compagnie de Muawiyah. Il est retourné à Médine. À Médine, le calife Omar lui a demandé la raison de son retour. Obadah lui a raconté l'histoire du différend et les paroles dures prononcées par Muawiyah contre sa personne. Sur ce, le calife Omar lui a demandé de retourner de là où il venait, en ajoutant « Allah laissera corrompre la terre où il n'y a pas des gens comme toi. » C'est-à-dire des érudits possédant la connaissance de la religion à l'instar de ses anciens compagnons du saint prophète Mohammed, peace be upon lui, était important là-bas sur ces terres. Sinon, ces pays et ces terres seront voués au malheur, d'où l'importance de son retour en Palestine. Ensuite, le calife Omar a écrit à l'émir Muawiyah en lui disant « Il n'y a plus de différend entre vous deux. Écoute les propos de Obadah, car il a raison. » Il existe de nombreux récits à propos de Obadah. J'évoquerai cela à l'avenir, Inch'Allah, dans mon prochain sermon. Étant donné que ces récits sont détaillés, cela prendra un peu de temps. J'évoque à présent une personne décédée récemment dont je dirigerai la prière funéraire. Il s'agit de Mokaram Tahir Arif Sahib qui est décédé le 26 août dernier après avoir enduré patiemment une très longue maladie. Le défunt est décédé ici au Royaume-Uni. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il souffrait d'un cancer qu'il a enduré très patiemment. Le défunt était un haut fonctionnaire au Pakistan et il avait pris sa retraite. Et je l'avais nommé au poste du président de la Fazle Umar Foundation quelque temps de cela. Ainsi, il occupait ce poste ces temps-ci et il était au service de la religion. Tahir Arif Sahib est né le 13 février 1952. Sa famille était originaire de Sialkot. Ensuite, sa famille s'est établie à Sargodha. Le père du défunt était Maulana Chaudhry Mohammad Yar Arif. Il était missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et il avait servi au Royaume-Uni. Il était l'imam adjoint de la mosquée de Londres. Maulana Mohammad Yar Arif avait aussi occupé le poste de l'adjoint du Wakil Tabshir Tahrik-e-Jadid Arabwa. Le père du défunt, Mohammad Yar Arif, était un très grand orateur, un grand érudit de la communauté. Il avait accompagné Maulana Abdurrahim Nayar Sahib pour représenter la Jamaat le 23 mars 1940 lors de la conférence durant laquelle la résolution sur le Pakistan a été présentée. C'était là un honneur historique que le père du défunt a eu. La mère du défunt se nommait Inayat Thuraya Begum. Son grand-père se nommait Chaudhry Ghulam Hussein et il était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Tahir Arif Sahib était un fin intellectuel. Il était un grand écrivain et un poète. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a aussi écrit deux recueils de poèmes. Un de ses recueils de poèmes est en langue ourdou et l'autre est en langue punjabi. Il a aussi écrit deux excellents ouvrages, un sur le saint prophète Mohammed peace be upon lui en langue anglaise et un deuxième sur le Pakistan. Ce deuxième ouvrage a pour titre « Le Pakistan étape par étape ». Après avoir complété sa maîtrise en économie à l'Université du Punjab, Le défunt a fait ses études en loi et il a eu son diplôme de LLB. Ensuite, il est parti en Angleterre où il a eu son diplôme de LLM à la London School of Economics. Et par la grâce de Dieu, il a reçu le prix de Mark of Merit de l'Université de Londres. Après avoir complété ses études à Londres, il est retourné au Pakistan, où il a passé le concours de la fonction publique. Il était attaché à la fonction publique au Pakistan et par la grâce d'Allah, il a été promu inspecteur général de la police. Le fait qu'il atteigne ce poste au Pakistan après que des lois aient été passées contre la Jamaat démontre certainement ses aptitudes extraordinaires. En sus de ses fonctions à la police, le défunt a aussi travaillé dans le département FIA et il a aussi travaillé au renseignement des services de l'immigration. Lors de son séjour à Londres pour ses études, le quatrième calife avait demandé au défunt d'aider Chaudhry Rashid Saheb sur la rédaction de quelques ouvrages pour les enfants en langue anglaise. Et le défunt a rendu de grands services à cet égard. Par la grâce d'Allah, le défunt étudiait avec beaucoup d'engouement les ouvrages du Messie premier Islam. Il était toujours en train de lire ces ouvrages du Messie premier Islam. Et il ne se contentait pas de lire ces ouvrages, il prenait également des notes et il partageait ces notes avec ses amis et il discutait à ce propos avec eux. Le défunt récitait régulièrement le Saint-Coran et il méditait sur les préceptes du Saint-Coran. Aucun de ses proches ne me l'a mentionné, mais je me souviens d'une fois, lors d'une discussion, j'ai appris qu'il se réveillait régulièrement pour accomplir la prière de Tahajjud. Dans le cadre de son travail au Pakistan, là où il résidait, il se présentait toujours pour servir la Jamaat. Le défunt était une personne très brave et comme je l'ai mentionné par la grâce d'Allah, il lisait énormément et il était très intelligent. Il étudiait la littérature religieuse et mondaine et il avait beaucoup de connaissances et il utilisait ses connaissances à bon escient. Il avait une grande connaissance des ouvrages de la communauté. Et il avait de très bonnes opinions, des opinions très intéressantes. Et il était un très bon conseiller. Il avait preuve d'un grand sens de sincérité à l'égard du califat. Et il était un Ahmadi sincère et brave. Il a passé toute sa vie à être le soutien du califat et à être un serviteur fidèle de la communauté. J'ai constaté que par la grâce d'Allah, il a réussi dans cette voie. Le défunt était mon camarade de classe, donc je le connais depuis le lycée. Depuis cette époque, par la grâce d'Allah, j'ai constaté qu'il a aimé accroître sa connaissance. Il savait très bien débattre et il participait aux débats organisés dans le lycée. Il était aussi un très bon orateur. Et à cette époque, j'avais noté qu'il avait aussi une très bonne connaissance religieuse. Il faut aussi mentionner le fait qu'il avait un respect et un amour particulier pour les serviteurs de la communauté et les personnes dédiées, et il était toujours prêt pour aider ses amis Ahmadis. Il occupait un poste important et dans ce cadre, il tentait d'aider les Ahmadis le mieux possible. Il a commencé à servir à la fondation Fazl-e Umar à partir de 2014 quand il a été nommé directeur de la fondation. Et en 2017, après le décès de Chaudhry Hamid Nasrullah Khan, qui était à l'époque le président de la fondation Fazl-e Umar, je l'ai nommé au poste de président de cette fondation. Et par la grâce d'Allah, comme je l'ai mentionné, il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Il a occupé ce poste jusqu'au moment où il est venu ici au Royaume-Uni pour se faire soigner, il y a de cela 3 ou 4 mois. Et il a beaucoup travaillé pour cette fondation. Il participait à toutes les conférences et montrait aussi son intérêt. Sous sa direction, l'activité avait nettement augmenté. Le défunt laisse derrière lui son épouse qui se nomme Anissa Tahir Sahiba, son fils Asfanyar Arif et 3 filles, Taiba Arif, Aziza Awadja et Bina Tahir Arif. Deux de ses filles sont mariées, son fils et l'une de ses filles ne sont pas encore mariées. Sa fille Taïba Arif écrit ceci. Allah l'exalté avait accordé de nombreuses réussites mondaines à notre défunt père. Mais il a toujours maintenu sa distinction d'être l'Ahmadi. Avec beaucoup de courage et de fierté, il était un officier honnête et digne de confiance. Il accordait préséance à la foi et avait confiance en Allah, et c'était une personne humble. Il était un poète, un homme de lettres, un excellent gestionnaire, un enseignant. Il avait de grandes connaissances religieuses. Il était un mari responsable, un père très gentil. Et plus important encore, il avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed, peace be upon lui. Sa fille ajoute, notre mère nous a dit qu'elle a toujours constaté que son mari était très juste, très doux de nature. Sans faire de différence entre les personnes âgées, riches ou pauvres, il était bienveillant envers tout le monde, quel que soit leur statut. Certains proches m'écrivent motivés par des sentiments ou en raison de leur lien de parenté, mais moi je peux dire que tout ce qui est dit à propos du défunt est vrai parce que je le connaissais personnellement. Monsieur Mubarak Siddiqui écrit que le défunt Tahir Arif était une personne très simple et humble. Il avait une grande relation d'amour et d'obéissance envers le califat. Il était un poète hors pair et un homme de lettres. Il ajoute aussi qu'un jour, j'ai demandé au défunt de citer son vers préféré. Et il a cité un vers sur son amour pour le califat. Dans ce vers, il disait, « Ô mon maître, si seulement ton serviteur pourrait être auprès de toi, que mon corps devienne herbe et soit piétiné. » Il ajoute, « Un jour, lors d'une assemblée amicale, je lui dis, « Tahir Sahib, Allah a honoré tout Ahmadi d'une manière ou d'une autre. Vous avez occupé un poste très important au sein du département de la police. » Il a dit, « Le plus grand honneur pour moi, c'est d'être un Ahmadi. » Et il a donné l'exemple du fait qu'il avait étudié avec moi le calife et il a ajouté que j'étais le camarade de classe du calife, et c'est là un très grand honneur pour moi. Son père, Maulana Mohammad Yar Arif, l'avait envoyé à Rabwa pour étudier au lycée, et lorsque notre lycée a été nationalisé peu de temps après, au lieu d'héberger à l'internat, le défunt a fait une requête auprès du troisième calife pour séjourner dans la Darou Ziafat. Il avait fait cette requête du fait que le troisième calife connaissait très bien son père, Maulana Mohammad Yar Arif. Et ainsi, le défunt a hébergé à la Darou Ziafat jusqu'à la fin de ses études. Lorsque nous étions étudiants, nous discutions de nombreuses choses sans gêne et nous plaisantions beaucoup. Mais lorsque le quatrième calife m'avait nommé Nazir et Allah, il a aussitôt montré un grand respect et une grande considération à mon égard. Et après avoir été nommé calife par la grâce d'Allah, il a fait preuve d'une grande sincérité et d'une grande fidélité à mon égard. Qu'Allah fasse preuve de pardon à son égard et qu'il lui accorde sa miséricorde. Qu'Allah élève aussi son rang et qu'il permette aussi à ses enfants d'être toujours attachés à la communauté et au califat. ses amis et ses proches et les membres de sa famille ont fait part de nombreux récits à son sujet. Et ils ont tous dit que par la grâce d'Allah, le défunt était quelqu'un de très humble, quelqu'un qui était très simple et quelqu'un qui avait une grande connaissance. Après la prière de Juma, Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire en présence de sa dépouille. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire et je vous demande de rester ici et de faire les rangs pour la prière funéraire.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ